Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Ivan Golounov, journaliste russe de renom, arrêté, inculpé de trafic de drogue et hospitalisé après des violences policières, correspondance de Moscou. Donald Trump promet un avenir radieux à l'accord signé hier soir avec Mexico, voilà qui ensevelit possiblement un revers de sa part, contesté qu'il était jusque dans son propre camp quand il promettait de surtaxer les importations mexicaines, précision de Grégory Phillips à Washington. Réglementer jusqu'à interdire les sorties en mer, c'est la proposition du maire des Sables-d'Olonne après la mort de trois sauveteurs de la SNSM, commentaire de Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Au chef d'inculpation invraisemblable, au dire de ses proches, trafic de drogue, il faut désormais ajouter des conditions de détention on ne peut plus troubles. D'après son avocat, le journaliste d'investigation Ivan Golounov a été hospitalisé après avoir été violenté par des policiers. Ivan Golounov, reporter du média indépendant en ligne Medusa, a écrit de nombreux articles sur des affaires de corruption et de détournement de fonds, notamment sur le partage mafieux du business des cimetières. Les précisions à Moscou de Léo Vidal.
Jeudi 6 juin, dans la soirée, Ivan Golounov est arrêté par la police en plein centre-ville de Moscou. On trouve sur lui de la cocaïne et une perquisition à son domicile révèle tout un laboratoire de confection de drogue. Il est immédiatement emprisonné. Golounov, qui n'a eu accès à un avocat que 15 heures après son arrestation, nie en bloc. D'après lui, la police aurait disposé elle-même de la drogue dans son sac à dos et son appartement pour le piéger. Il se plaint d'avoir été battu en prison, privé de sommeil et de nourriture pendant 24 heures. Ivan Golounov, c'est l'une des plus grandes plumes de Russie, un journaliste reconnu pour la qualité et la précision de ses enquêtes. Il a plus d'une fois exposé des affaires de corruption impliquant des fonctionnaires haut placés au sein de la mairie de Moscou ou des services de sécurité. Pour Pavel Kanigin, journaliste pour le quotidien d'opposition Novaya Gazeta, il ne fait aucun doute que l'arrestation d'Ivan Golounov est un coup monté pour réduire son confrère au silence.
C'est évidemment une provocation. Je connais Ivan. Il ne boit même pas d'alcool. Il travaillait sur un grand article consacré au marché des services funéraires à Moscou. C'est un milieu très criminel, infecté par la mafia. Il faut s'intéresser à ceux sur lesquels Ivan était en train d'enquêter, ou ceux sur lesquels il avait déjà écrit. Ça ne peut pas être autre chose.
Cet après-midi, Ivan Golounov a fait un malaise au poste de police où il était détenu. La police russe l'a envoyé passer des examens médicaux, mais elle refuse de l'hospitaliser tant que le tribunal n'aura pas statué sur son emprisonnement. Le scandale dans le pays est immense, la pression médiatique très forte pour exiger sa libération. Pour trafic de drogue de grande ampleur, il risque entre 10 et 20 ans de prison.
De nouvelles injonctions contradictoires à l'actif de l'administration Trump. Ces derniers jours, Donald Trump se disait disposé à dialoguer avec Téhéran. Et bien hier, les États-Unis plaçaient sous sanction le plus important groupe pétrochimique iranien, ce qui conduit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères à souligner l'insincérité du président américain. Donald Trump, qui à grand bruit tente de faire d'un renoncement une victoire, celle qui consiste à ne pas appliquer à compter de lundi prochain des surtaxes douanières sur les importations mexicaine. Accord a été trouvé, l'annonce remonte à hier soir et depuis, Donald Trump ne cesse d'en faire publicité. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Mathieu.
Vous êtes en direct de Washington. Grégory, sait-on seulement quel est le contenu de cet accord ?
Alors, en partie, hein, même si c'est pas encore complètement détaillé, le Mexique s'engage à prendre des mesures qualifiées de sans précédent pour endiguer le flot de migrants qui transitent par son territoire pour gagner l'Eldorado américain. Le mois dernier, 140 000 arrestations à la frontière entre Mexique et États-Unis. Alors, qu'y a-t-il dans ces mesures ? Un, le déploiement de la garde nationale mexicaine à la frontière sud pour empêcher les arrivées du Guatemala notamment. Deux, le Mexique s'engage aussi à mieux lutter contre les passeurs et les trafiquants. Enfin, trois, et ça c'est une demande spécifique de l'administration Trump, tous les migrants qui feront une demande d'asile ici aux États-Unis seront d'abord renvoyés du côté mexicain de la frontière en attendant l'examen de leur requête. Alors tout ceci, se félicite Trump, va permettre de réduire grandement, voire d'éliminer, dit-il, l'immigration illégale. C'est en tout cas ce que dit le président américain qui, hier soir, a salué cet accord et donc levé sa menace d'imposer ses tarifs sur tous les produits importés du Mexique. L'entrée en vigueur de ces droits de douane était annoncée pour lundi matin.
Et Grégory Phillips, il faut se souvenir que cette idée de taxer les produits importés du Mexique était vivement critiqué par les milieux économiques aux États-Unis et même au sein du Parti républicain.
Oui, parce qu'imaginez tous les produits mexicains taxés à 5%, puis 10% le mois d'après, puis 10% le mois suivant, ça aurait évidemment eu des conséquences très lourdes pour les entreprises et les consommateurs américains. L'industrie automobile, par exemple, fait venir des pièces détachées du Mexique. Il y a tous les produits agricoles, les équipements médicaux, etc., qui auraient coûté plus cher à partir de lundi. Et puis côté politique, fronde également des sénateurs, y compris républicains, vous avez raison, qui disaient à Trump de ne pas se lancer dans une telle aventure, menaçant même de bloquer cette mesure au Congrès. Donc soulagement finalement assez général. Quant à l'opposition démocrate, elle réagit d'une part avec gravité. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dénonce la violation des droits des demandeurs d'asile. Et puis d'autre part, avec ironie, Chuck Schumer, le patron de la minorité démocrate au Sénat, commente « Donald Trump nous annonce la fin de l'immigration clandestine, dont acte, donc plus besoin de murs à la frontière. »
Merci à vous, Grégory Phillips, en direct de Washington. Le président sénégalais dénonce, je cite, « une tentative de déstabilisation après des révélations de la BBC qui mettent en cause l'un des frères de Macky Sall dans une affaire de corruption qui a trait à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Nous allons rétablir la vérité et sanctionner Ton, le président, qui avait promis aux Sénégalais d'œuvrer jour et nuit pour en finir avec la corruption. Après l'opposition sénégalaise, la société civile s'empare du dossier et demande des comptes à l'exécutif. C'est un reportage à Dakar de William Delesseux de RFI.
Entre 9 et 12 milliards de dollars versés à Franck Timis par BP sur 40 ans, la firme britannique n'a pas démenti un tel montant. C'est autant d'argent en moins pour les Sénégalais, d'après la société civile. Elimane Khan, président de l'Ex-Africa.
C'est énorme. Donc cela veut dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va gagner? Ces ressources doivent être exploitées dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et en tant que citoyens sénégalais, nous n'accepterons pas que nos représentants prennent des décisions qui sont en contraire aux intérêts de notre peuple, parce que ces ressources nous appartiennent. Il faut élargir l'espace de transparence de la gouvernance du secteur des hydrocarbures. Et malheureusement, jusque-là, c'est concentré au niveau de l'exécutif, entre le président et son ministre.
Le gouvernement avait promis d'ouvrir le comité de gestion du pétrole et du gaz à l'opposition et à la société civile. La mesure n'est toujours pas effective. Pour Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social, il y a urgence. Macky Sall doit prendre des décisions courageuses.
C'est de démettre son frère à un poste de responsabilité budgétaire et financière que constitue la caisse de consignation. Tout cela pour montrer sa bonne foi, sa détermination à faire éclater la vérité et à rejoindre une déclaration qu'il avait faite à l'époque « Je ne protégerai personne ».
Une semaine après la diffusion de l'enquête de la BBC, Aliou Sall, également maire de Guédiawaye, écarte toute démission. Il avait également démenti avoir reçu 250 000 dollars de la part de Franck Timis.
Après le choc de l'abattement, puis la colère en l'occurrence du maire des Sables-d'Olonne au chevet de ses administrés après la mort de trois sauveteurs bénévoles de la SNSM, partis à la rescousse d'un pêcheur en grande détresse en pleine tempête, un pêcheur qui n'aurait pas dû prendre la mer, selon Yannick Moreau, qui propose de changer les règles de sortie en mer pour éviter ces drames. Une proposition irréalisable pour Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris.
C'est très compliqué la mer. Tout dépend de la taille du bateau, tout dépend du nombre de personnes à bord du bateau, tout dépend de l'endroit précis. C'est vrai que la sortie du port des Sables-d'Olonne est particulièrement dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir, ça dépend des moyens. Ça supposerait une réglementation très draconienne, très technique, qui serait très peu lisible. Donc je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Les sauveteurs en mer sont de grands professionnels. Oui, il faut absolument être très vigilant quant aux sorties de mer, effectivement, lorsqu'on n'a pas affaire à des professionnels de la mer, lorsque les conditions sont dramatiques. Mais vous comprenez bien que de toute manière, si tous les bateaux de partout devaient se trouver dans les ports en période de tempête, on n'aurait pas des ports assez grands. Et il faut dissuader, interdire peut-être dans certains cas, mais il y aura de toute manière des gens qui malheureusement, parce qu'ils sont irresponsables, vont enfreindre la réglementation et ce n'est pas une raison pour ne pas intervenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Société nationale de sauvetage en mer, depuis des années, depuis plus de 50 ans, a sauté des milliers de vies. Il est inconcevable, alors qu'on voit quelqu'un en détresse, de ne pas intervenir. Ce qu'il faut, c'est renforcer encore les moyens. Car en dépit de l'appellation Société Nationale, il faut savoir que c'est une association privée qui à 80% fonctionne à partir de donations. Ce sont des pêcheurs, ce sont des marins. Il faut savoir que le métier de marin, c'est un taux de mortalité de 2 pour 1000. Un marin a 16 fois plus de risque de se blesser dans l'exercice de son métier, vous voyez, qu'un pompier. Donc c'est dire la dangerosité. Ces gens qui prennent le risque pour sauver des vies, prennent ces risques, ils le font en conscience Et c'est vraiment tout à l'honneur des gens de mer. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans des polémiques stériles. Les gens de mer, qui sont des gens de solidarité, ne peuvent pas baisser les bras.
Voilà des propos recueillis par Manon Derdevet. Les trois sauveteurs de la SNSM sont des héros, écrit le président de la République Emmanuel Macron, a décidé de les nommer à titre posthume chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le pêcheur est toujours porté disparu. 30e mobilisation des Gilets jaunes avec des heurts à Montpellier et un millier de manifestants en Seine-Saint-Denis pour une marche intitulée Les Gilets jaunes en banlieue, acte 1. Quelques mots et quelques mots seulement de la météo de demain dimanche, temps instable avec des passages d'averses et de nombreux orages sur l'est du pays. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto à la technique Nasser Moussaoui.